C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de doute social. Ouais. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut à tous, bienvenue dans le Super Daily. Si vous ne suivez pas comme tous les autres le matin sur Twitch dès 9h, et ben vous nous écoutez en podcast et ça nous fait plaisir aussi.
Exactement, alors le doute social, attention à ne pas sous-estimer le doute social. Qu'est-ce
que c'est? C'est vrai que dans le Super Daily, on a beaucoup parlé de la preuve sociale et je pense que c'est important de la redéfinir en deux mots. La preuve sociale, c'est tout simplement ce pourquoi tous les oiseaux volent en V, par exemple, dans le ciel, ou pourquoi tous les bancs de poissons d'un coup changent de direction tous ensemble en même temps. En fait, c'est la reproduction. La preuve sociale, c'est simplement la reproduction de normes, d'habitudes, et quand on le traduit dans le marketing, on est rassuré de voir les autres faire la même chose que nous. On est rassuré de voir quelqu'un qui a acheté un objet, qui a acheté un service et qui en a été satisfait. Ça nous rassure beaucoup plus, cette preuve sociale, au fond, que quand c'est la marque elle-même qui nous dit acheter notre produit, parce que forcément, il y a un biais.
Le meilleur exemple de preuve sociale, deux restaurants l'un face de l'autre dans la rue. Il y en a un dans lequel il y a une grande queue. Ouais. Voilà, il y a 20 personnes qui font la queue pour rentrer dans cette pizzeria et l'autre, il n'y a personne. Et où est-ce que je vais naturellement aller? Eh bien, il y a quand même de grandes chances que je me dirige vers là où il y a la queue, quitte à attendre. Pourquoi? Parce que je suis rassuré par la preuve sociale que crée cette queue.
Et quel est le premier réflexe que vous avez quand vous partez en vacances quelque part, loin d'un endroit que vous ne connaissez pas? C'est que vous demandez autour de vous si quelqu'un y est déjà allé, et s'il peut vous conseiller un resto, un hôtel, quelque chose, et vous allez suivre ses conseils, alors qu'il n'a sûrement pas testé tous les restos de la ville, mais si vous conseillez un resto en particulier, vous irez dans celui-là.
Et le doute social dans tout ça, c'est sans doute le revers de la médaille, si on peut dire. Le doute social, il s'installe lorsqu'un conso, un prospect, il voit ou il perçoit ou il entend quelque chose à propos de votre marque, de votre produit, qui le rend moins confiant. Moins confiant d'acheter chez vous, moins confiant de pousser plus loin ses recherches à propos de votre produit.
C'est tout ce qui peut mettre un petit doute dans sa tête, tout ce qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, ils se disent « Ah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ». Et ça peut arriver bêtement, ça peut être très simple. Par exemple, ils découvrent votre marque, ils cliquent sur votre compte Instagram, vous avez 69 abonnés, ils se disent « Bon, 69, c'est le Rhône, ok, mais c'est peut-être pas suffisant, ça m'inquiète un peu, j'ai l'impression que c'est un peu un fake ou que c'est une marque pas très sérieuse ».
Et oui, parce qu'au lieu de rassurer les gens sur leur achat, le doute social, il fait remettre en question le passage à l'acte. C'est ça qui est vraiment important. T'as raison, exemple classique, je suis dans mon feed, je tombe sur une pub Instagram très bien fichue, très belle vidéo, vachement bien faite, qui met en avant, un nouveau gadget tech.
Je me dis,
waouh, mais c'est trop ça, il me faut exactement ce produit.
Carrément.
Je clique sur en savoir plus et là, je tombe sur un compte Instagram avec 69 abonnés.
Ouais.
Et là, forcément, le doute s'installe. Le doute, il est installé. Je vais même te dire un truc, c'est déjà mort, en fait. Je n'irai pas plus loin. Ce doute, il est un peu irrationnel. Rien me dit que le produit est moins bon, finalement.
Ça se trouve, il est super bien.
Mais ce compteur bloqué à 69 abonnés, il va m'empêcher de passer à l'acte d'achat. Le doute a pris le dessus.
C'est vrai. Et là, si vous avez en plus, si vous êtes dans un milieu concurrentiel et que vous avez des concurrents qui, eux, ont une page Instagram à 120 000 abonnés, avec vos 60 abonnés, vous n'allez pas peser lourd quand le choix va se faire. Alors, il y a pire que ça. Il y a le fait aussi de ne pas avoir de réseau du tout. Si vous n'existez pas en social media, je ne sais pas si ça existe vraiment encore en 2023, mais là, le doute social, il naît tout de suite et on se dit, j'ai trop ni sur Instagram, ni sur Facebook, ça n'existe pas ta marque. Qu'est-ce qu'ils font?
Et derrière le doute social, se cache un réflexe qu'on appelle l'aversion aux pertes. Alors je vais rentrer dans ce concept marketing parce qu'on a tous au fond un réflexe fort qui s'appelle l'aversion aux pertes. Qu'est-ce que c'est ce principe d'aversion aux pertes? C'est un réflexe profond qui dit la chose suivante: notre réponse aux pertes, elle est plus forte que notre réponse aux gains correspondants. Alors, je vais m'expliquer.
Ouais,
ce concept, il a été théorisé en 1979 par un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman. Je vous mets le lien vers cette théorie si vous voulez pousser plus loin, mais je vais essayer de la résumer. Le meilleur exemple pour illustrer le principe d'aversion aux pertes. Je me balade dans la rue.
Ouais.
Je tombe sur un billet de 20 balles, 20 euros.
Ouais.
Je me dis, yes, je suis heureux.
Je vais gagner 20 balles.
je ressens du plaisir. Ouais. Voilà, clairement. À l'inverse, si je perds 20 euros en me baladant, eh bien là, ça va générer chez moi une émotion négative qui est plus puissante, qui est deux fois plus puissante que celle du plaisir que j'aurais eu à trouver ces 20 euros. C'est ça l'aversion aux pertes. En gros, les pertes, elles pèsent plus lourd que les gains.
Est-ce que c'est un peu ce qui fait qu'on aurait, par exemple, plus la conséquence de ça, c'est qu'on a plus peur de perdre qu'on a envie de gagner parfois.
Et ben c'est exactement ça. Hein. Et il en va de même pour la preuve sociale. Le doute est plus fort que la preuve. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, beaucoup de preuve sociale. Mais c'est vraiment important aussi réfléchir à la notion de doute parce que c'est encore plus puissant. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein, ça, c'est le classique de dicton de grand-mère. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ben c'est un peu pareil en matière de business et notamment sur les réseaux sociaux. Par exemple, qu'est-ce qui peut créer du doute ? Et ben, tu en as cité quelques exemples. Une présence en ligne trop faible, ouais, ça peut générer du doute social. Par exemple, quelqu'un te parle de ta boîte à un ami, parle de, je sais pas, de Supernatif, dit ouais, Supernatif, c'est vachement bien, ils font du bon boulot. Et il décide de nous consulter. Voilà, il atterrit sur notre page Instagram et là, par erreur, on n'a pas mis à jour notre compte Instagram depuis 6 mois, par exemple. Ben évidemment que là, le doute social, il est énorme.
Bah oui, il se dit tiens, qu'est-ce qu'ils font depuis 6 mois ? Pourquoi
ils jettent un coup d'œil à notre page LinkedIn et depuis 3 mois, il n'y a pas eu de poste. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette boîte, elle est en train de crever ? Est-ce qu'elle est vraiment active ? Et là, il y a peu de chances quand même que le prospect, il aille jusqu'au bout de sa demande.
Ouais, je suis d'accord. Il y a plein. Et en fait, ce qui va être intéressant là, c'est que c'est souvent plus dur à détecter. C'est-à-dire que, bon, la preuve sociale aujourd'hui, on maîtrise. Si vous écoutez le Super Daily, vous savez comment on peut mettre en avant cette preuve sociale, des UGC, des avis clients, une prise de parole déjà en continu sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui permet effectivement, comme tu le disais juste à l'instant, de rassurer tes futurs clients. Eh bien, le doute social, c'est vraiment le revers de cette pièce, comme tu disais, bah, c'est quand t'as pas tout ça. Et puis, c'est un peu plus dur à détecter parce que quand le doute social, je pense qu'il faut faire encore plus preuve d'empathie pour arriver à se mettre dans la peau d'un client et imaginer tout son parcours client, tout ce qu'il peut faire pour justement se renseigner sur votre marque et tout ce qui va pouvoir venir mettre un grain de sable dans la machine au fur et à mesure. Donc là, il va y avoir des choses qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, l'importance du CM et du service client, ça c'est pour moi, peut-être la chose la plus importante à retenir autour du doute social et de la preuve sociale d'ailleurs. Mais pour rassurer justement et éviter ce doute social, un bon community management, du conversationnel et qui travaille main dans la main avec un super service client, c'est la base pour arriver à être sûr que là, vous avez bien couvert le fond du terrain.
Bien sûr, ça c'est une des missions du community manager et plus globalement de votre stratégie social media, c'est de renforcer la preuve sociale, d'éliminer au maximum possible le doute social en répondant aux questions que les gens se posent et puis sans oublier aussi que quand je réponds à un commentaire, les autres voient ma réponse.
Et puis, vous ne pourrez pas empêcher tous les commentaires négatifs. C'est-à-dire que le doute social, il naît aussi de commentaires négatifs. On va tomber sur votre page Facebook, sur votre site, sur Google, les avis Google. Peut-être que va se trimballer au milieu de tout ça un commentaire négatif. Mais peut-être que ce commentaire négatif, c'est celui qui va mettre le doute dans la tête de certains clients qui vont pas venir chez vous parce que ils vont lire ce commentaire négatif. Et s'il y a une réponse de marque en face qui apporte des réponses aux problématiques que s'est posé ce client-là, s'il y a un service client qui gère parfaitement bien le SAV derrière la vente d'un produit, eh bien, vous allez réduire ce nombre de commentaires négatifs et surtout, vous allez y apporter une réponse de marque qui va peut-être rassurer un futur client et qui ne va pas semer du doute.
Sur ce point d'ailleurs, les avis douteux peuvent générer effectivement un doute social. Hein. Les avis clients, on le sait, c'est extrêmement puissant. Ça peut laisser de la place au doute. C'est ça qui est important. Plus que rapporter de la preuve, ça peut aussi rapporter du doute. C'est évidemment le cas lorsque tu tombes sur, comme tu l'as dit, sur, je sais pas, un Google My Business avec des avis mitigés, voire négatifs. Forcément, t'es en doute. Mais attention, il en va de même lorsque les critiques, elles sont un peu trop dithyrambiques. C'est un peu louche.
C'est un peu louche
tout ça. Hein. Est-ce que tu savais, par exemple, on en a déjà parlé ici, donc tu le sais, qu'une note de 5 étoiles sur Google My Business, c'est pas forcément la meilleure note, voire même ce n'est pas la meilleure note.
Tu préfères un 4,7 avec 250 000 avis, quoi.
Exactement, et je suis retombé sur cette étude qui a été menée par Uber Hall. Je vous la mets en note de cet épisode,
hein,
qui détermine que les entreprises qui avaient des notes de 5 étoiles sur Google My Business, eh bien, elles souffraient de moins de conversions que les entreprises avec une moyenne inférieure à 5, notamment autour de 4-3, 4-5. Voilà. Ouais. Pourquoi? Eh bien, le doute social, ce fameux doute social, il se met dès lors que c'est un peu douteux d'avoir 5 sur 150.
C'est bizarre d'être parfait.
Il y a un truc bizarre.
Bah oui, oui, personne n'est parfait, donc c'est bizarre d'avoir la note complètement parfaite, quoi.
Et autre truc bizarre, autre truc qui crée du doute, le mauvais branding. Ça génère un doute social monstrueux. Et quand même, c'est étonnant de voir qu'en 2023, il y a encore des marques, des entreprises qui ne prennent pas ça en compte. Hein. T'es intéressé par un nouveau produit sur le marché. Voilà, t'en as entendu parler par des copains. Ils te disent, ouais, c'est pas mal. Hein, faudrait que tu regardes ce truc. Ça semble être la solution à ton problème. Mais lorsque t'arrives sur les comptes réseaux sociaux de cette marque, eh bien, tu vois des images produits dégueulasses, bien amateurs. Ouais. Tu vois, mal faites, un peu floues, un peu sombres, des photomontages cheap, le logo, la typo, les couleurs, tout est un peu cracra. Eh bien, qu'est-ce que ça crée chez toi? Ça crée du doute. Non seulement ça crée du doute, mais ça te permet pas d'avoir une idée vraiment claire de ce à quoi ressemble le produit, son fonctionnement. En gros, le doute, il s'installe et ça, c'est pas bon. Ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer forcément dans ton funnel de conversion, ton étape de benchmark, et tu vas tomber sur une marque qui, elle, bosse beaucoup mieux son branding, un branding professionnel. Et forcément, eh bien, le doute social va prendre le dessus et tu vas aller acheter ailleurs. Voilà.
Quand on parle de branding, on peut aussi parler d'influence marketing, hein, et de choix de créateurs de contenu avec qui s'associer. Eh bien, y a l'exemple de Gucci qui est assez intéressant comme ça dans le doute social. Ce serait des concurrents de la marque de Gucci qui auraient carrément envoyé un ensemble et un sac Gucci à une ancienne star de la télé-réalité américaine, un petit peu passée, hein, qui s'appelle Snooki, et qui est pas du tout l'archétype de la personne qui va porter du Gucci, ou en tout cas que Gucci va vouloir mettre en avant. Gucci qui est une marque très luxueuse, les clients du coup habituels de la marque de luxe, quand ils ont vu Snooki sur les réseaux sociaux vêtu d'un ensemble entier Gucci avec son sac Gucci, etc., forcément ils se sont dit, bah en fait, si cette personnalité la publique porte du Gucci est choisi par la marque pour porter du Gucci, est-ce que cette marque, elle est vraiment faite pour moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de représenter? Est-ce que c'est, j'ai envie de ça représente ça? Et du coup, ils auraient perdu un peu des parts de marché. Là, il y a eu un doute social qui est né justement de ce mauvais choix exprès, hein, de concurrent pour abîmer un peu le branding de la marque.
Ouais, bah ça, c'est aussi une notion de branding, effectivement. Mes partenariats, mes collaborations, elles doivent être parfaitement alignées avec mon positionnement. Sinon, je crée un doute. Si je suis une marque avec un positionnement expert, qualitatif, et que j'utilise l'influence marketing comme un gros cochon en me disant, bah c'est que de la portée, finalement c'est comme du publicitaire, on s'en fout, je risque de créer du doute et je vais en créer, donc finalement c'est contre-productif.
Ça peut être le cas par exemple aussi avec des campagnes de nano-influence très larges avec énormément d'influenceurs qu'on choisit plus ou moins bien parce qu'on en veut beaucoup, et puis dans le tas, dans les 50 influenceurs qu'on aura choisi, bah peut-être qu'il y en a 5, 6 qui ont des comptes ou une manière de présenter le produit qui sera pas du tout à la hauteur de ce qu'on a envie.
Les amis, vous l'avez compris, hein, tout ça, on est dans la psychologie fine. Adjane, tu veux rajouter
quelque chose? J'en avais un dernier sur le fait que parfois trop de preuves sociales aussi tuent la preuve sociale, comme tu l'as dit toi pour les commentaires, par exemple, tous trop parfaits à 5 étoiles. On voit encore des sites, parfois des sites internet qui sont construits de marques avec, tu sais, des petits boutons like sur plein de pages différentes, etc., dans des endroits complètement un peu saugrenus où il n'y a pas grand chose à liker. Et ça, pareil, du coup, on se retrouve avec des compteurs parfois à zéro. Et c'est pas rassurant du tout quand tu traverses un site et que tu as l'impression qu'en fait, personne ne lit et personne ne like rien. Et où tu te dis, bah en fait, je suis le seul à être allé regarder sur ce site ce qui se passe. C'est pas très rassurant aussi par rapport à la marque. Donc là aussi, il y a un doute qui peut naître. Attention dans les constructions de vos sites.
Et ouais, tiens, je vous invite ce matin à la suite de cet épisode à vous schématiser à nouveau le parcours de votre prospect, parcours de votre lead. Quels sont les canaux, quels sont les points de contact qu'il a avec vous avant l'acte d'achat, son cheminement vers l'acte d'achat. Et vous posez la question et regardez tout ça avec une loupe, un effet de loupe sur le doute. Où est-ce que je peux créer du doute? Où est-ce que potentiellement je ne suis pas rassurant? Parce que là, à cet endroit, il y a quelque chose qui est très préjudiciable. J'en reviens à nouveau avec cette logique d'aversion aux pertes. Ouais. Retenez bien qu'effectivement,
la peur de perdre,
elle est plus importante que le plaisir et l'envie de gagner. Donc, partant de ce principe-là, il y a vraiment, je pense, un intérêt à repasser au crible l'intégralité de sa stratégie social media. déjà de son parcours
client. Hyper intéressant.
Bon, les amis, voilà hein, ce qu'on pouvait se raconter ce matin. Ouais. Sans doute que vous avez aussi des exemples que vous avez débusqués précédemment sur vos dispositifs social media. Venez nous en parler sur les réseaux sociaux.
Ad Super Natif, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok. On est partout et on vous répond avec nos équipes CM justement pour prendre le pouls de ce qui se passe chez vous aussi en social media. Et puis, si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas, un petit commentaire, une petite note, ça nous fait remonter dans les plateformes de stream.
Merci à vous tous, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle journée. Rendez-vous demain, salut
ciao,
tout le monde,
ciao,
bye.